Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Quelad. Au sommaire de notre édition, données de consommation des compteurs Linky, la CNIL met en demeure Engie et EDF pour non-respect de certaines exigences, les données de consommation fine peuvent révéler des informations sur la vie privée, autant de questions que soulevait alors le collectif Saône-Beaujolais Compteurs Libres au début de l'installation des compteurs Linky. Puis, l'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Saône est à l'initiative d'un dépôt de plainte au commissariat de Villefranche ce jeudi 13 février. Les explications avec Christian Riton, secrétaire pour l'ULCGT du Beaujolais. Il est joint par téléphone. Et pour conclure, le groupe Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais, VUVIB, tiendra une assemblée générale prochainement. L'objectif, créer un collectif avec les usagers du vélo caladois et de son agglomération pour devenir un interlocuteur face aux différents décideurs de la localité, comme nous l'expliquent Sophie Péloin et Alain Dex, membres de VUVIB. Calade, le journal. La Commission nationale de l'information et des libertés, CNIL, gendarme français de la protection des données, a annoncé mardi avoir mis en demeure les groupes d'énergie EDF et Engie, leur donnant 3 mois pour mettre en conformité la manière dont ils gèrent la collecte des informations personnelles des consommateurs via les compteurs communicants Linky. Tiré d'un article de France Info. Les deux groupes sont mis en demeure en raison de non-respect de certaines des exigences relatives au recueil du consentement à la collecte des données de consommation issues des compteurs communicants Linky, ainsi que pour une durée de conservation excessive de données de consommation. Or, les données de consommation fines peuvent révéler des informations sur la vie privée. Heure de lever et de coucher, période d'absence, éventuellement le nombre de personnes présentes dans le logement. Il est donc essentiel que les clients puissent garder la maîtrise de leurs données. Premier problème, relève la CNIL, la loi impose de recueillir un consentement spécifique, c'est-à-dire un consentement distinct pour chaque objet poursuivi par la collecte des données. Or, il a été constaté que EDF et Engie recueillent par le biais d'une seule et unique case à cocher le consentement pour 2 opérations clairement distinctes. L'affichage dans l'espace client des consommations quotidiennes et l'affichage des consommations à la demi-heure. Ces dernières étant beaucoup plus intrusives pour la vie privée. Par ailleurs, la CNIL a constaté que la rédaction d'une question du formulaire du consentement de recueil des données pouvait induire l'abonné en erreur, de sorte que son consentement ne puisse pas forcément être éclairé comme le demande la loi. Enfin, les durées de conservation des données de consommation sont parfois trop longues au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, estime la CNIL. Le compteur Linky, un espion dans le placard ? Données de consommation des compteurs Linky. La CNIL met en demeure Engie et EDF pour non-respect de certaines exigences. Les données de consommation fines peuvent révéler des informations sur la vie privée. La CNIL leur reproche tout d'abord de manquer de transparence au moment de demander à leurs clients leur consentement pour récolter leurs données de consommation. Autre problème pointé du doigt par la CNIL, EDF et Engie conservent trop longtemps ces informations personnel. Autant de questions qu'on soulevait depuis le début de l'installation des compteurs Linky, le collectif Saône-Beaujolais Compteurs Libres, avec nous Sylvie Goutenem et Dominique Lacandemine, membres du collectif lors d'un entretien.
Alors, il apparaît maintenant sur le marché des PES personnes connectées, des miroirs connectés, des enceintes connectées, des téléviseurs connectés, des brosses à dents connectées.
Et plus la domotique. Donc effectivement, l'arrivée de la domotique, c'est-à-dire la possibilité d'allumer finalement votre radiateur à distance, lorsque vous savez que vous allez arriver dans 3-4 heures dans votre maison pour qu'elle soit chaude, vous pouvez l'allumer à distance. Donc des objets qui s'inscrivent dans le cadre de l'évolution du progrès et qui passe par ce type de compteur.
Un progrès lié à un certain type de choix de société. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut prendre le temps de s'interroger sur ces choix technologiques et sur la direction que l'on veut donner à notre société humaine.
D'autant que nos anciens compteurs électromécaniques avaient une durée de vie qui était exceptionnelle, hein, 30, 40 ans, 50 ans, certains fonctionnent depuis 60 ans et fonctionnent encore très très bien, alors que ces nouveaux compteurs qui nous arrivent sont donnés pour une durée de vie de 15 ans, mais en fait, dans les faits, c'est plutôt autour de 7 ans. 6-7 ans. Donc là, il y a un deuxième problème qui arrive juste derrière l'installation. Donc, deuxième problème écologique dans la durée. On est, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, on est dans un début d'installation et dans un vide juridique. Donc, l'histoire s'écrit autour de la détermination de l'État français à mettre en place ces compteurs.
Déjà au cœur de nombreux débats depuis sa mise en service dans les foyers, le nouveau compteur électrique connecté Linky est désormais la cible de la Commission nationale de l'information et des libertés CNIL. L'institution a mis en demeure, mardi 11 février, les sociétés EDF et Engie à propos de la gestion des données personnelles de leurs clients. Les deux fournisseurs d'énergie ont maintenant 3 mois pour se mettre en conformité. L'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Saône est à l'initiative d'un dépôt de plainte au commissariat de Villefranche ce jeudi 13 février contre le gouvernement fondé sur 3 articles du Code pénal. Une déclinaison avec Christian Riton, il est secrétaire pour l'ULCGT du Beaujolais, de ces articles et il est joint par téléphone.
L'objet se décline sous trois formes. La première, c'est une notion d'escroquerie. La deuxième, mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et la troisième, destruction de biens publics par une personne dépositaire de l'autorité publique. Ce sont des articles du Code pénal que l'on utilise pour dénoncer ce qu'est en train de mettre en place le gouvernement au niveau notamment des retraites et notamment concernant les privés d'emploi et précaires qui vont être sérieusement malmenés à partir du 1er avril.
Escroquerie, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous pouvez expliquer?
C'est l'emploi de manœuvres frauduleuses tendant à induire en erreur l'opinion publique sur la finalité et les conséquences des mesures fiscales prises. La tromperie des cotisants en les incitant à verser la partie socialisée de leur salaire à d'autres fins que les cotisations sociales. Le principe de la cotisation sociale, c'est ce qu'on appelle le salaire différé, c'est-à-dire qu'on cotise pour tous les accidents de la vie qui risquent d'intervenir. La maladie, la perte d'emploi notamment, et les difficultés dans lesquelles on risque d'être arrivé à un âge avancé. La réforme des retraites perd la notion de cotisation collective, puisqu'après, chacun cotise individuellement et par points. On est dans un autre fonctionnement. On passe du collectif, en gros, à l'individualisme.
Alors, autre dépôt de l'article du Code pénal que vous faites référence, c'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui.
Ça, c'est sur les conséquences, pareil, de la réforme, qui va avoir automatiquement pour effet de faire partir plus tard des salariés qui sont sur des métiers dangereux ou des métiers pénibles. Dangereux, je pense notamment à égoutier. La durée de vie est extrêmement réduite et donc ces gens-là qui pouvaient partir à 52 ans ne pourront plus, partiront plus tard. Voilà ce qui risque de se produire. Et là, il y a bien d'autres métiers dont la pénibilité a pour effet de réduire la durée de vie des salariés et donc de mettre à risque ces populations-là.
C'était Christian Riton, secrétaire à l'Union locale CGT du Beaujolais, dans le cadre d'un dépôt de plainte au commissariat de Villefranche le 13 février prochain contre le gouvernement fondé sur 3 articles du Code pénal. Un rassemblement aura lieu donc ce jeudi 13 février à 17h place des Arts à Villefranche, pendant qu'une délégation caladoise se rendra au commissariat pour faire le dépôt de plainte contre le gouvernement. Et pour conclure cette édition, le groupe Vélo Urbain à Villefranche en Beaujolais VUVIB tiendra une assemblée générale constitutive le 20 février à 19h à la salle 1 de l'espace Barmondière à Villefranche. L'objectif, créer un collectif avec les usagers du vélo caladois et de son agglomération pour devenir un interlocuteur face aux différents décideurs de la localité, comme nous l'expliquent Sophie Péloin et Alain Dex, membres de VUVIB.
En fait, c'est parti d'un petit groupe de personnes qui se sont rencontrées au printemps 2019 et qui avaient envie de constituer un groupe. Donc, il y a d'abord une personne qui s'appelle Victor Herlin qui a fait une page Facebook qu'il a appelée Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais. Cette page Facebook a aujourd'hui 160 likers, comme on dit,
Suite au succès de la page Facebook, il y a une première réunion qui a eu lieu début septembre, où il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde est arrivé. C'est là l'aventure a commencé. Donc, les gens qui étaient là ont eu envie de faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire de créer une association pour pouvoir s'affilier à la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, pour pouvoir après avoir une action très concrète sur Villefranche et sur les environs de Villefranche, c'est-à-dire le territoire de l'agglo.
Surtout, ce que nous voulons, c'est faire un groupe vélo qui travaille avec non seulement la municipalité, mais avec l'agglo. Jusqu'à présent, il y a un groupe vélo qui existe sur la municipalité de Villefranche, dont je fais partie. Mais moi, je m'aperçois que ça progresse très lentement et qu'on n'est pas du tout dans les problèmes de l'urgence climatique. Nous, on veut aller beaucoup plus vite et permettre aux gens de se mettre au vélo sur Villefranche. Là, pour le moment, on a eu les résultats de l'enquête de la FUB.
Le palmarès des villes cyclables. Hein.
On est très loin d'un bon résultat. Au contraire, on est dans les notes les plus basses. Et donc, voilà, notre association doit s'associer avec les élus pour faire progresser rapidement les possibilités de faire du vélo en ville.
Alors, vous avez déjà commencé à faire des démarches, effectivement ?
Par rapport au PCAET, il y a
oui,
eu...
Pour le PCAET de l'agglo.
Donc le plan climat, air, énergie.
Certaines ont été retenues, mais en fait, on est dans des généralités, oui. Mais dans la réalité, les budgets ne sont pas alloués. Et voilà, il ne se passe rien du tout pour le moment. Avec le groupe de Villefranche, il y a une piste cyclable qui est prévue pour être construite, qui devait démarrer en fin d'année 2019, qui partirait du centre-ville et qui irait jusqu'au bord de Saône. Donc ça, c'est très bien, il y a beaucoup d'argent qui est prévu là-dessus, mais pour moi, il y a tout le reste. C'est-à-dire que nous aimerions que les jeunes, les élèves des collèges puissent aller en toute sécurité au collège en vélo, voilà, et puis que les gens puissent aller travailler en vélo, ceux qui travaillent sur Villefranche. Il faut que les gens puissent prendre leur vélo en toute sécurité et que ça devienne agréable pour la circulation des vélos.
Oui, je voulais rajouter qu'en fait, on rencontre très très souvent des personnes qui nous disent « Moi, j'aimerais bien faire du vélo à Villefranche, j'aimerais bien pouvoir me déplacer en vélo à Villefranche, mais j'ai peur parce que je trouve ça dangereux. » Et c'est vrai que nous, on se déplace tous les jours à Villefranche, donc on est bien placé pour le savoir. C'est dangereux de faire du vélo aujourd'hui à Villefranche et sur l'agglomération. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures, surtout aux heures de pointe, quand on sort du travail ou quand on va au travail, et qu'il n'y a pas d'espace sécurisé pour les vélos. Il y a maintenant quelques bandes dessinées au sol, mais malheureusement, ces bandes ne sont pas toujours respectées par les automobilistes. Il y a souvent des gens qui stationnent dessus, et de toute façon, ce n'est pas vraiment une piste cyclable sécurisée. Voilà.
C'est aussi en quelque sorte une éducation aux citoyens, hein, c'est ça, j'ai bien compris.
C'est exactement ça, c'est une éducation de tout le monde en fait, même des automobilistes pour respecter les vélos et aussi je pense que les vélos aussi doivent respecter les autres modes de déplacement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a depuis cet été, on fait des balades urbaines toutes les derniers samedis du mois. C'est toujours annoncé sur notre page Facebook pour justement initier au déplacement à vélo en ville. Donc à chaque fois, on a beaucoup de monde qui vient, des gens qui viennent avec leur vélo, justement parce qu'ils n'osent pas tout seuls. Et c'est vrai qu'en groupe, ça nous permet d'apprendre les bons gestes, les bons réflexes. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur.
C'était Sophie Péloin et Alain Dex, membres de VUVIB. Le groupe vélo urbain à Villefranche en Beaujolais VUVIB tiendra une assemblée générale le 20 février à 19h à la salle 1 de l'espace Barmondière à Villefranche. Ouvert à tous. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.